Ta parole est une lumière à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bon, on va découvrir. Merci à Jean-Pierre et double merci parce que vous allez comprendre pourquoi. Je ne sais pas si je dois donner ce message. Tu as déjà tout dit. Voilà. Pas tout à fait. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons besoin d'avoir une réelle perception de Dieu. Pas une image, ni une conception de Dieu. Dieu ne s'explique pas, ne se comprend pas, ne se limite pas, il est dans l'infini. Il demeure dans l'éternité. Il respire la sainteté et il s'exprime dans l'amour. Ben, mes amis, essayez de faire une image de ça. Vous voudriez que je vous montre ce que je ne vois pas ? Ben, cela n'est pas possible. Mais par contre, je peux vous parler de ce Père que Jésus m'a révélé, que la parole me dévoile, et avec l'aide du Saint-Esprit, je vais essayer d'éclairer nos vies de cette clarté divine. Ce matin, un petit message, mais une grande certitude. Je vais arrêter, j'arrête d'ailleurs, Néhémie maintenant, pendant tout l'été, à peu près, quelque chose près, et nous allons voir des thèmes. Ce matin, c'est le Père des Lumières. Petit clin d'œil. Merci. Mon Dieu, quand je te parle, j'aimerais bien que tu m'écoutes. Hein ? Je crois que c'est... Et puis il répond, figure-toi, moi aussi, figure-toi. J'aime bien cette petite image, elle n'est pas de moi, mais je l'aime bien. Et nous allons commencer. Ne nous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Ce sera peut-être l'interpellation de notre message. Ne nous y trompons pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Je vous invite à prier. Seigneur, comme il nous a été rappelé ce matin, c'est bien de ta parole que nous voulons tirer les mots et le partage que nous allons avoir ce matin. Parce que nous pensons que ta parole, c'est la tienne. Elle prend vie dans notre bouche parce que ton esprit l'anime et lui donne vie. Et Seigneur, je prie pour que ce matin, cette parole soit véritablement inspirée et soufflée par ton esprit, afin qu'elle touche notre cœur. Qu'elle nous rappelle aussi que nous marchons sur une terre de misère, que nous sommes des pécheurs, mais comme il nous a été rappelé avant, ton sang nous purifie de tout péché. Ton sang est suffisant, parce que tu étais saint, tu étais parfait, et tu as donné ton sang pour nous. Et c'est pourquoi ce sang nous purifie. Merci Seigneur, merci de cette vérité. Merci de ta vie pour nous. C'est pas rien de donner sa vie. Et Seigneur, nous prions ce matin pour que justement tu nous éclaires. Au nom de Jésus. Amen. Alors commençons par le début. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est vrai ça, hein ? La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous sommes au début, il me semble important de commencer par le début. Bah oui, hein ? On va pas commencer par la fin. Ah, elle est allée trop vite. Elle est allée un tout petit peu trop vite. Il faut attendre mon signe. C'est pas grave du tout. Merci. Merci en attendant de tout ce que vous faites, c'est une aide précieuse. Donc nous sommes au début, et au début nous voyons les ténèbres qui sont à la surface de la terre. Il n'y a rien, on n'y voit rien, et il n'y a personne pour voir. Voilà, le tableau est dressé. Verset 3 de la Genèse, hein, nous sommes dans la Genèse, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour, c'était bon. C'est ce que dit la Bible. Le premier jour, Dieu créa la lumière. Donc, nous allons parler de la lumière. Si vous descendez, un exemple, si vous descendez dans une cave bien noire, ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, hein, faire attention de ne pas se casser la figure, il fait bien noir. Il suffit d'allumer une lampe ou une bougie et les ténèbres reculent. Nous voyons. Ça, c'est un exemple type. Hein, quand on est dans tout noir, on allume un peu et immédiatement, les ténèbres reculent et elles font place à la lumière. La lumière révèle tout ce qui se trouve sous son halo. La lumière, c'est la vérité absolue. La lumière, c'est la vie. Donc, lisons dans l'évangile de Jean, maintenant. Hop là. Bon. Ah ben voilà. Donc, vous voyez pourquoi j'ai dit merci à Jean-Pierre. L'évangile. Alors là, c'est l'évangile de Jean, hein, c'est pas l'épître. La première épître, nous sommes dans l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, les versets donc 1 à 18, donc c'est 1 à 9, j'ai dit, hein. Ah oui, 1 à 9. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue, comme a dit Jean-Pierre tout à l'heure. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant de le monde, éclaire tout homme. Une lueur pour nous ce matin. Je voudrais vous parler de Dieu. Vous savez, pour moi, c'est la chose la plus merveilleuse de pouvoir parler de Dieu. Souvent, on perd son temps à discuter, c'est mon cas, hein, à raconter à droite, à gauche, des tas de choses, sur un tas de... Mais là, je voudrais vous parler de Dieu. Dieu dans le merveilleux de sa personne. Ce qui est d'extraordinaire et que ce qui m'a amené à me convertir, ce n'est pas ce que m'ont dit les gens, c'est ce que j'ai découvert de Dieu. Dieu le Créateur, nous avons vu au commencement, il n'y avait rien. Dieu dit que la lumière soit, et elle fut. Ce qui est d'extraordinaire dans Dieu, c'est qu'il suffit qu'il dise pour que ce soit. Et quand on a dit, on a demandé à Dieu de dire, mais comment t'appelles-tu? Qui es-tu? Il a répondu, je suis, parce que Dieu est. Je ne peux pas commenter s'il a été un jour quoi. Non, non, Dieu est, c'est au présent. Dieu existe de toute éternité, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et c'est pas rassurant ça. Moi je trouve ça extraordinaire. Chaque jour de ma vie, lorsque je pense à Dieu, je suis ébloui du merveilleux de sa personne, parce que je ne m'en lasse jamais. Je ne peux pas me rassasier de la connaissance de Dieu. Il me suffit d'ouvrir mon cœur chaque matin et de me laisser remplir par l'Esprit de Dieu, par sa présence. Et là, je deviens plein de Dieu. Dans Éphésiens, il a dit comme ça, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Un moment merveilleux, un moment où justement on lâche prise. C'est un mot que je répète souvent, pardonnez-moi. Ouais, je n'ai pas beaucoup de mots, je ne suis pas un homme de grande science. Mais pour moi, tout lâcher, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire tout abandonner, tout laisser, ce qui est de moi, ce qui est mon orgueil quelque part d'exister. Eh bien, j'abandonne tout ça à l'autel devant la grâce de Dieu. Et je me laisse remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et là, mes amis, là, pour un homme comme moi, eh bien, je suis heureux. Je ne sais pas vous, mais dans ces moments-là, où je n'existe plus, où j'ai tout laissé, j'ai tout abandonné, eh bien, je suis heureux. Je crois que le bonheur, c'est ça, c'est d'être simplement dans toute la plénitude de la présence de Dieu, et d'être rempli complètement de lui-même. Alors, je vais vous emmener chez mon copain, puisque mon verset, On peut passer à l'autre. Merci. Jacques 1, 16. Je suis désolé, hein. Mais peut-être qu'un jour, vous connaîtrez cette épître par cœur. Moi, je ne la connais pas encore par cœur. Mais j'aime tellement. Vous voyez, je vous ai parlé de Dieu, je peux vous parler de Jacques. Parce que Jacques a vécu dans l'intimité de Jésus. Jacques respire cette bonne odeur de sainteté. Son épître est pleine de cette sainteté qui vient de Dieu. Et c'est ça qui est important pour nous, pour moi surtout. Parce que ce que je trouve de merveilleux en Dieu, c'est que le mal n'existe pas. Ce mal que nous avons tant de mal, pardonnez-moi de dire ça, à vivre. Parce qu'autour de nous, c'est plein de mal. La misère qui est de nos vies nous côtoie à chaque instant, partout où nous allons. Alors que quand nous allons vers Dieu, nous y côtoyons cette paix extraordinaire que seul son esprit peut nous donner. Nous sommes dans cette plénitude de Dieu. Chapitre 1, verset 16, il est écrit comme ça, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. » Jacques répète ce petit mot. Ça veut dire qu'on peut se tromper. Eh oui, je crois qu'aujourd'hui, les télévisions, les médias nous trompent suffisamment. Alors arrêtons-nous ce matin dans la parole de Dieu et écoutons ce qu'elle nous dit, puisqu'il nous dit comme ça, « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. » Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voilà la révélation extraordinaire que le monde ait jamais connue. Je me sens appelé à parler de la personne de Dieu, de notre bon Père céleste, le Père des miséricordes, le Père des compassions, c'est aussi le Père éternel, le Père de gloire. Parlons donc ce matin du Père des Lumières. C'est le début de la vie, la lumière, c'est la vie. Ne nous y trompons pas, mes frères bien et sœurs bien-aimés. Tout ce qui vient d'en haut est bon, et la grâce coule du ciel. Paul demande à Dieu d'illuminer les yeux de notre cœur, d'éclairer de sa lumière notre cœur, parce que ça passe par le cœur. La vie passe par le cœur. Le cœur, c'est le siège de notre vie spirituelle. C'est là que repose la véritable compréhension et les véritables motivations, surtout, qui sortent de nous pour aller... Je ne vais pas essayer de traîner, parce qu'autrement, je vais encore plus avoir... Je pense au puissant ardent. Moïse ne peut supporter cette vision comme on ne peut supporter de regarder le soleil en face, qui est la création de Dieu. À bien plus forte raison, Dieu qui est lumière ne peut-il être supportable à notre regard humain? Moi, j'aime bien parler de Dieu comme notre Père. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les Juifs avaient une crainte, mais ils avaient une crainte redoutable, ils en avaient peur, hein, de Dieu. Alors il appelait Dieu Adonai, Seigneur, Yahvé, il y en a qui avaient peur. Nous devrions peut-être en avoir un petit peu plus de respect. De notre côté, craindre Dieu veut dire avoir du respect. Pas de peur car l'amour bannit la crainte. Depuis que Jésus est venu, il nous a révélé le Père. Jésus a apporté une notion d'intimité que n'avaient pas, dans l'Ancien Testament, c'est vrai, les Juifs. De douceur aussi, notre relation est devenue personnelle. C'est pourquoi j'aime appeler Dieu notre bon Père céleste. Les disciples aussi l'ont compris, puisqu'ils disent, et si vous prenez la prière de Jésus, le Notre Père, prenons Luc 1 par exemple, « Seigneur, enseigne-nous à prier, à parler avec Dieu ». Enseigne-nous à parler avec le Père. Jésus révèle qu'il faut être fils pour parler au Père. Mais Jésus donne immédiatement le sens de la relation en qualifiant le Père. Notre Père qui est aux cieux, donc il s'agit du Père céleste, que ton nom soit sanctifié, d'autres fois nous parlerons du Père de gloire, mais de suite dans sa prière modèle, Jésus donne le ton de la relation. que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous pouvons parler avec Dieu comme avec un Père, sans retenue. Cela ne veut pas dire que Dieu perd sa nature divine, son essence parfaite, qu'il descend de sa gloire, non. Dieu règne dans son univers de sainteté. Ne jamais oublier que hors de la sainteté, Dieu n'existe pas. La sainteté, c'est lui. La perfection, l'amour extraordinaire que nous recherchons, c'est lui. Il ne peut pas se couper, il ne peut pas se séparer. Il restera, il sera toujours éternellement saint. Aujourd'hui, nous voulons tout révéler, tout connaître, mais il existe dans la Bible des mystères, et moi j'accepte de ne pas tout connaître. Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'accepte. Je ne suis pas Dieu. Vous connaissez ce fameux chapitre de 1 Corinthiens 13, il dit « Aujourd'hui, nous connaissons comme au moyen d'un miroir, c'est-à-dire de quelque chose qui déforme parfois. Et quand le parfait sera venu, alors nous connaîtrons parfaitement. » Mais ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Donc il y a des mystères, il y a des choses que l'on ne comprenait pas tout à fait. Seulement, je contemple la gloire de Dieu, je me laisse saisir par la grâce qui me projette dans la sainteté de Dieu, où je suis heureux, comme je vous dis. Pas de péché, plein de grâce le matin, quand je pars avec Dieu, quand je me suis reposé, quand j'ai lâché, vraiment lâché, et que j'ouvre les yeux sur Dieu, alors effectivement, je suis heureux. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés et sœurs, tout don parfait, toute grâce excellente, descendent d'en haut du Père des Lumières. Ne vous y trompez pas, aujourd'hui, souvent, écoutez bien ça, on transpose le spirituel dans l'humain. C'est subtil. Comme cela, on n'appelle plus le mal péché. Cela devient un problème réglé, mais le péché demeure. On a réglé le problème. C'est fini, on n'en parle plus. Mais si, parlons-en. Tant que le péché n'a pas été abandonné aux pieds de Dieu, tant qu'il n'a pas été demandé pardon devant Dieu, le péché demeure. Je peux l'avoir excusé, je peux l'avoir compris. Souvent d'ailleurs, je ne sais pas chez vous, mais de temps en temps, moi ça m'arrive avec des gens avec qui je travaille de dire « pardonnez-moi ». Non, pas la peine de demander pardon. On va s'excuser. Et puis d'abord on dit toujours « je m'excuse ». On ne dit pas « excusez-moi ». Hein, on prend les devants. Ne vous y trompez pas, seul le pardon de Dieu libère du péché. C'est le sang de Jésus qui purifie. Nous l'avons dit, mais c'est tellement vrai. Hors de Jésus, pas de pardon. En dehors de la croix, le pardon n'existe pas. C'est au pied de la croix que l'on peut déposer. Ah, c'est pas tout écrit ça, hein, Yann. Excuse-moi, il y a des choses que je n'ai pas forcément écrites. Dans son infini, Dieu est souverain, majestueux, il ne change pas. Alors nous allons rapidement regarder trois points sur la lumière du Père de lumière. Premièrement, elle éclaire. Deuxièmement, elle illumine. Et troisièmement, elle qualifie. Donc elle éclaire, c'est en effet la première qualité de la lumière, hein, elle éclaire. Il y a eu la colonne de feu dans le désert, la nuit pour les éclairer. Dans les psaumes, nous lisons 118, par exemple 28, c'est plein de références. Donc j'en cite deux comme ça. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles éclaire. La lumière a un rôle déterminant dans notre marche, elle éclaire notre sentier. La lumière permet de voir. Là, nous parlons spirituellement. Hein, c'est pas comme j'avais une torche qui m'allume. Non. C'est une lumière que le Saint-Esprit fait éblouir dans mon cœur et qui donne jour, finalement, à tout ce que je suis. Par exemple, nous avons aussi Job, pieux homme de Dieu, et Dieu disait de lui au verset 1, Job 1, 8, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et pourtant, 42 chapitres après. Vous connaissez toute l'histoire de Job, hein, c'est toute une histoire de d'explications et d'amis qui viennent te demander, etc., d'accusations de péché, tout. Enfin bon, on va pas refaire Job, mais au 42 chapitres plus loin, Job dira au verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Il a été éclairé. Changement. Pas par la lumière physique, mais par la lumière spirituelle. Dans son cœur, la vérité a jailli et il a vu. Deuxièmement, elle illumine. Il y a la notion d'embraser. Le petit Larousse dit « illuminer personne qui soutient avec zèle une doctrine avec une foi aveugle ». C'est intéressant. C'est aussi le domaine du génie, de la passion. On dirait aujourd'hui mettre le feu dans sa foi. Dans l'Ecclésiaste 8.1, la sagesse illumine le visage de l'homme. Et je pense encore à Moïse qui redescend de la montagne après avoir été dans la présence de Dieu. Dans sa lumière, son visage irradie, il illumine de clarté et les autres ne pouvaient pas supporter cette lumière. Elle illumine et nous ne voyons plus le monde et ses attraits. Et enfin, en troisième, elle nous qualifie. Être dans la lumière rassure. Les ténèbres font peur. Hein, quand on ne sait pas où on va, quelque part, on tâtonne avec les mains, on a peur. Pas vous ? Ah, bon, je croyais que j'étais tout seul à avoir peur. Non, non, mais le méchant se cache à l'ombre des ténèbres. Nous sommes des enfants de lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, dit Paul en 1 Thessaloniciens 5.5. D'accord. Revenons à notre texte. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Chez Dieu, il n'y a pas d'ombre, pas de grisaille. Le gris provient de l'ombre, ce qui est encore caché. Le chrétien, lui, il vit dans la lumière. Il n'a pas peur de la lumière. Il se laisse éclairer. Il se laisse remplir de la clarté de la lumière pour pouvoir voir. Reconnaître ce qu'il y a dans son cœur, le voir. Laisser Dieu lui montrer ce qui est écrit dans son cœur, qu'il ne veut pas voir parfois. Il se cache, il va se cacher dans un coin, comme Adam et Ève. Adam, Adam, tu es où ? J'étais caché, j'ai eu peur. Avant, il n'avait pas peur. Mais là, ça a changé. Le péché est rentré dans sa vie, et il ne le voit pas. C'est pas ce que nous dit ce passage ici, où il nous dit comme ça que du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni variation. C'est le Père des Lumières, celui qui éclaire tout. Venez dans la présence du Père. Approchez-vous. Laissez-vous faire. Lâchez tout. Laissez-vous illuminer par le Saint-Esprit. Paul dit comme ça, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Je prie, je supplie même Dieu. Il y a dans cette exclamation de Paul un véritable désir que tous ses frères et sœurs puissent marcher dans la lumière, qu'ils aient le cœur délivré des ténèbres de ce monde, ouvert, ouvert à la puissance de Dieu qui, lui, ne veut que notre bien. Dieu nous veut du bien. Si Dieu veut nous éclairer, c'est pour que nous puissions voir ce que nous avons à voir, afin de le lâcher et que ça nous fasse du bien. Vous n'avez jamais remarqué que quand vous aviez passé un moment qui était difficile, vous approchez de Dieu, vous lâchez votre paquet, votre fardeau, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous ferai du bien. Et puis qu'est-ce que nous faisons ? Un petit peu comme ce bonhomme tout à l'heure qui parlait à Dieu, dis donc. L'homme vient, il pose son fardeau, et puis il dit, qu'est-ce que ça fait du bien ? Qu'est-ce que c'est merveilleux d'être délivré ? Merci Seigneur. Hop, il prend son fardeau, je le mets sur l'eau. Ouh, c'est lourd. Ouh. Mais t'as rien fait, Seigneur. Si, mais toi, t'as repris ton fardeau. T'es reparti avec ta misère. Te plains pas maintenant. Je t'avais délivré et tu as repris ton fardeau sur toi. Laissez faire. Lâchez tout. Posez-le, le fardeau, et laissez-le. Dieu le prend et il le jette au fond de la mer. Dans un endroit qu'on ne peut même pas voir, oublié. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Le chrétien vit dans la lumière. Dieu est rayonnant devant, derrière, sur les côtés, dessous, dessus. La lumière éblouissante qui vient de lui purifie toute chose et sa lumière, à sa lumière, tout est éclairé. Avec Dieu, pas de changement, pas de doute, rien que des certitudes. Ah, oh, ça c'est extraordinaire. Vous savez, Dieu, il discute pas, hein. Il négocie pas. Non, non, non. Avec Dieu, c'est oui ou c'est non. C'est vrai, en toute occasion, c'est vrai. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père que par lui. C'est une certitude. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Le chrétien ne peut pas être dans l'ombre. Dieu l'appelle à la lumière. Dans l'ombre, il a mal, il est troublé. Et comme le dit Jacques, il est partagé, un peu plus haut, il dit. Et il ne sait plus quoi faire, qu'un tel homme ou une église même ne s'imagine pas qu'ils recevront quelque chose du Seigneur. Il voyage entre ombre et lumière. Beaucoup de chrétiens restent dans l'ombre et ils ne voient pas bien. Ils ne voient pas bien, c'est chez vous mettre des bonnes lunettes, je ne vois pas bien. Je vois pas bien. Et Dieu dit comme ça, pourquoi tu mets des lunettes? Je t'ai créé pour voir. T'en as pas besoin, jette tes lunettes. Et puis, en même temps, le péché qui va avec, jette-le aussi, tiens, ça fera du bien. Libère-toi, lave-toi complètement, change. Change. Il n'avance pas, il ne discerne rien. Ta touche des églises, frères et sœurs. L'ombre touche des églises. Il faut que nous réfléchissions à comment nous voulons vivre dans notre Église. Jean-Pierre nous a encouragés à aller sur les parvis. Le monde aussi a son père. Ah oui, c'est là qu'il ne faut pas mélanger. Il faut choisir son camp. Dans la nuit du monde règne le père du mensonge. Ça aussi, c'est une certitude que dit la Bible. Autour de nous, beaucoup de mensonges. Aujourd'hui, le monde est rempli de mensonges. Ouvrez votre poste de télévision et c'est parti. La meilleure lessive, c'est la mienne. Mensonge, il y en a une autre à côté qui fait pareil. Etc., etc., etc. Si nous sommes à Dieu, nous sommes enfants de la lumière. Nous avons pour Père le Père des Lumières, le Dieu de toute consolation, le Père des Miséricordes. J'aime tellement cette expression. La miséricorde, souvenez-vous toujours, frères et sœurs, c'est quelque chose que Dieu nous donne et que nous ne méritons pas. Et moi qui méritais rien, j'ai tout pris. Franchement, j'ai tout pris. Je me suis pas gêné. Parce que Dieu est généreux. Dieu ne regarde pas à ce que nous prenons. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Vous voulez du repos? Mais prenez tout ce que vous voulez. Ah, moi, j'ai tout pris. Ah oui, je me suis pas gêné, que ça soit du repos, que ça soit de la grâce, que ça soit des bienfaits, que ça soit de l'amour. Vous avez besoin d'être aimé? Vous avez besoin d'être pardonné? Franchement, faites comme moi. Faites comme moi, vous gênez pas. Prenez tout, parce que Dieu est généreux. Dieu aime, et quand il dit qu'il aime pour lui, c'est une plénitude. Il déverse en nous son amour. On peut mettre le dernier, je crois. Hop. Je vous encourage donc, frères. Tout ce que dit la Bible est vrai. Je vous encourage donc, frères, puisque nous avons parlé du Père des Lumières, par les compassions de Dieu, et ce sera notre conclusion, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un sacrifice logique. C'est quand même un sacrifice. Ça va vous coûter. Ça va nous coûter. C'est pas cadeau. Dieu, lui, a fait grâce. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'était un cadeau. Une grâce, c'est un cadeau. C'est quelque chose qu'on donne. Mais là, il s'agit d'un sacrifice. C'est-à-dire que ça va nous coûter. Il va falloir peut-être se fatiguer. Il va falloir peut-être prendre du temps. J'ai du temps pour mes amusements, peut-être un peu trop. Pour mes loisirs, peut-être un peu trop. Qu'est-ce que tu as comme temps pour Dieu? Qu'est-ce que tu as comme moyen pour Dieu? Comment tu fais tes comptes? Voilà des questions que l'on peut se poser. Et ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. J'aime bien ce mot, je mets métamorphoser, parce que quand on dit transformer, ça ne veut pas dire ça. C'est dans deux fois dans le Nouveau Testament, ce mot est utilisé. Métamorphoser, vous savez, c'est la chenille qui devient papillon. C'est plus une chenille, elle vole. C'est un papillon. Frères et sœurs, je vous invite à devenir des papillons. Je vous invite à vous envoler au-dessus de votre existence misérable d'être humain, comme moi. De vous laisser prendre par le Saint-Esprit pour pouvoir justement vous élever au-dessus de toutes ces choses. Pourquoi ? Eh bien, afin que vous discerniez, c'est-à-dire voir à travers votre cœur quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible est la révélation du Père des Lumières. Par lui, nous voyons. Prions. Seigneur, pardonne-moi parce que je sais que mes mots ne sont pas suffisants pour exprimer toute la puissance de ce texte où nous voyons le Père des Lumières, de qui tout ce qui est bon descend d'en haut, et que rien ne change, rien ne changera, tout sera toujours identique de ta part. Tu es parfait en toutes choses, en toutes circonstances. Tu ne mens jamais, ça n'existe pas, le mal n'existe pas, tu es saint. Merci Seigneur que ta parole nous révèle ces vérités. Tout ce qu'elle dit est vrai. Depuis que j'ai lu ta parole, et là je l'ai lu assez tard, mais depuis ce jour, je le crois. Je le crois parce que en moi, ton esprit atteste et il me dit que c'est vrai. Alors je le crois. Au fond de mon cœur, c'est gravé, c'est écrit, et à aucun moment de moi, il y a des doutes. Merci Seigneur de ces certitudes que tu mets dans nos cœurs. Merci que tu nous as donné la lumière pour voir, juste pour voir. Et lorsque nous lisons ta parole, nous voyons justement tout ce que tu es, tout ce que tu veux faire. Nous voyons l'Église, ton Église, ici, locale. Nous la voyons belle, Seigneur, parce que elle est à toi, elle t'appartient. C'est toi qui la conduis et nous voulons peut-être modestement être à ton service et essayer de voir, de discerner, de comprendre quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen.